Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, j'ai la banane. Parce que
Oh oui.
Moi, j'ai le poireau.
On est entre mecs.
C'est un one shot.
Bonne foire à la saucisse.
La foire à la saucisse.
En direct Fabien. De Strasbourg.
Fabien, ça va la pêche ?
Salut.
Nous sommes avec Maxime.
Oui.
Nous sommes avec Adrien.
Salut.
Et nous sommes avec Fred.
Bienvenue.
Nous allons jouer à Hot Guys Making Out, un jeu de...
Ton micro.
Ben Lehman, le fabuleux Ben Lehman qui a fait Blistage, Polaris, qui a fait Clover aussi pour ceux qui...
Ah, c'est le jeu avec la petite fille là,
ouais,
où on...
Ouais.
C'est ça. Fait.
Où les scénarios, c'est aller donner du pain au canard, ouais, explorer la cave.
C'est important de le préciser parce que juste après avoir parlé de Hot Guys Making Out, bon, le scénario avec la petite fille,
oui,
comme
c'est
ça,
vrai,
dit comme ça, c'est quand même bizarre. Hein.
Tu as tout à fait raison. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, c'est un ovni ce truc.
Alors, c'est un jeu dans lequel on joue du yaoi, c'est-à-dire des histoires d'amour entre hommes.
Savoir, hein.
Donc, qui est un genre du manga.
Oui.
Des histoires d'amour entre hommes qui ont la particularité d'être très très romancées, très codifiées, avec souvent des personnages qui sont assez assez féminés d'une certaine manière, c'est-à-dire très grands, minces, très beaux, musclés, relativement jeunes. Il y a souvent une différence d'âge et de position. Prends ton micro si tu veux intervenir, n'hésite pas.
Non mais je plus soyez.
De différence d'âge entre les deux personnages, on pourra reparler de ce que ces codes supposent et à quel point on peut avoir un discours critique aussi sur ces codes et sur la représentation de l'homosexualité masculine. Il y a aussi la particularité que c'est souvent un genre dans lequel les personnages eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme gays, en fait. C'est-à-dire, ne se pensent pas eux-mêmes comme, LGBT. Mais il se trouve qu'ils ont des relations amoureuses entre hommes.
Tu veux dire qu'il y a du trouble ?
C'est pas aussi clair. Voilà.
Bien.
Ouais, ça me semble coller avec la notion d'un personnage plus âgé que l'autre. C'est peut-être un rituel initiatique qui est...
Alors il y a ça aussi,
il
y a aussi des éléments qu'on pourra discuter.
Maxime voulait poser une question.
Quand tu dis des personnages efféminés, il faut voir que même en dehors du yaoi, c'est la vision dans le manga qu'on a de l'homme beau. Il y a des visions assez clichés dans les mangas. L'homme beau, c'est souvent l'homme qui est grand, mince, avec les cheveux longs. Pour eux, c'est pas efféminé.
Il suffit de regarder tous les persos de sens.
C'est ça. Et pour eux, il est pas efféminé. Il est juste beau. C'est un homme beau.
Oui, mais après, nous, notre vision occidentale, où effectivement.
Voilà, un occidental, c'est efféminé, mais pour un japonais.
Et je précise aussi que le yaoi est souvent un genre qui est pensé et écrit par des femmes. Pensé pour des femmes et écrit par des femmes. On rigolait sur le fait que c'est la fête à la saucisse aujourd'hui, mais voilà, il faut prendre aussi notre point de vue à la fois en tant qu'occidental, en tant qu'homme, en ce qui me concerne en tant qu'hétéro, donc il faut prendre ce qu'on va raconter comme de ce point de vue là.
Tu nous parles un peu du système.
Ouais.
J'ai juste demandé si le jeu expliquait tout ça et s'il disait c'est peut-être plus parce que le jeu est lui-même orienté plutôt pour des femmes.
Il n'y a pas du tout de discours critique ou de discours réflexif sur du jeu qui se réfléchit le yaoi. C'est vraiment un jeu de célébration. Tu vois, on célèbre le genre yaoi, on l'explore, etc.
C'est du simulationnisme.
Mais on peut s'amuser
ne saute pas tout de suite au GNS.
Je déconne.
On peut s'amuser en n'ayant jamais lu.
Je pense, ouais.
Parce que moi, j'ai des images clichés, mais...
Oui, moi aussi, j'ai des images clichés.
Et puis, j'ai vu l'épisode de South Park qui va bien.
J'avoue que moi, j'ai jamais non plus feuilleté la bibliothèque qui fait à peu près 20 mètres de long chez Romaric, qui contient que du yaoi, quoi. Enfin, déjà, j'arrive pas à les sortir de l'étagère tellement ils collent entre eux.
Podcast breaker.
Pardon.
Micro drop.
Podcast breaker.
Bon, je vais parler un peu plus de comment
ça se joue. Système de jeu, système de résolution.
De 2 à 4.
C'est classique, un MJ.
Non, pas du tout. Donc le contexte fictionnel est déjà décidé. Ça se joue dans les Pyrénées durant la guerre civile espagnole entre 1936-1939.
C'est quoi ce contexte?
Côté espagnol.
C'est pas très clair, on est sur la frontière. Il y a 4 personnages, donc un par joueur ou joueuse. 2 personnages donc, du couple amoureux et 2 personnages de soutien. Les 2 personnages du couple amoureux sont Gonzalvo. Donc Gonzalvo qui est un des orphelins de la guerre civile. Ses parents ont été tués par des fascistes, nous précisons, et qui est recueilli par Honoré. Honoré qui est un homme à l'allure rigoureuse.
Beau et ténébreux.
Ténébreux, exactement. Plein de lourds secrets, qui a un lien particulier et inconnu avec le père de Gonzalvo.
Donc il y a un univers en fait dans ce jeu.
Oui, qui est déjà déterminé.
Je m'attendais pas du tout.
C'est toujours le même, c'est ça qui est génial en fait. C'est que si tu joues deux fois, tu joues avec le même univers à chaque fois.
Et les mêmes personnages.
Ouais.
Au milieu de la nuit, Gonzalvo dans son orphelinat est réveillé par une main rude mais néanmoins aimante de Olivier. Olivier qui est le majordome d'Honoré. Et qu'il l'amène dans une voiture. La voiture traverse les routes, s'engage sur les petites routes périlleuses des Pyrénées, alors que la pluie tombe, l'orage gronde. Et enfin, ils arrivent à une maison éloignée, reculée de tous, ancienne, mais néanmoins bien entretenue, sur le perron de laquelle attend cet homme ténébreux qui est.
On a déjà commencé, en fait.
La barreau, c'est parfait, quoi, en fait.
Je veux bien vous attendre sur le perron, les gars.
Et le dernier personnage est Maria. Maria qui, donc autant Olivier est un majordome mais plutôt taciturne, qui agit avant tout, autant Maria est la servante dévouée d'Honoré, qui donne ses bons conseils sur la vie et sur l'amour. Et il y a une menace à chaque fois. Donc à chaque partie, on choisit une nouvelle menace. La première partie, la menace, c'est nécessairement que Maria est amoureuse d'Honoré. Et voyant arriver le jeune Gonzalvo, ne voit pas les choses d'un bon œil.
Tout le monde le sait, ça.
Pas vraiment au début. On le sait en tant que joueur, mais pas en tant que personnage. Et l'amour de Maria n'est pas partagé par Honoré.
Fabien.
La particularité, donc, c'est que ça se joue avec un deck de 52 cartes. Chacun d'entre nous pioche 5 cartes.
54 cartes.
54 cartes, oui, il y a les deux jokers, tout à fait.
D'accord.
Il en faut deux.
Il faut que tu me dises, parce que en fonction.
D'accord,
pour sortir le bon jeu, quoi. Parce que...
Et.
Perdu au jeu.
J'ai gagné au jeu. et donc, à chaque fois, on commence par le joueur de Gonzalvo, et chacun d'entre nous joue une carte. Cette carte doit toujours être plus haute, égale ou plus haute à celle qui a été jouée précédemment. Et en fait, selon la carte que tu joues, tu vas pouvoir faire différents types d'actions.
Cobra.
D'accord.
Désolé. Cobra. D'accord. Cobra Club, tout ça, non ?
Je sais pas du tout.
T'es passé complètement à côté de ça.
Cobra Club, je suis passé.
Tu n'écoutes pas les podcasts de la cellule, Fabien. Non, ce n'est pas bien.
Si ça te rassure, j'écoute pas beaucoup de podcasts.
Par contre, on a
pas grand chose.
On a un deck en fait. On est obligé de mettre une carte ou juste on va chercher une carte dans le.
Non,
t'as une
main de 5 cartes que tu ne montres pas aux autres. Tu peux jouer.
Et si tu peux pas monter.
Alors, si tu peux pas monter, ça c'est un mécanisme que j'aime bien. En fait, tu jettes une de tes cartes et t'en pioches une autre. Et tu racontes un élément de la fiction autour. Ce qui donne un côté très contemplatif, en fait. Parce que t'as souvent des trucs... moi, je me souviens de trucs du genre... les chandelles vacillent dans le silence de la maison la nuit. Les portraits sévères des ancêtres d'Honoré semblent jeter un regard de dédain.
Fabien est toujours tenté de faire le one-shot avant le one-shot. Voilà. Tout se brief toujours le truc. Non, mais nous explique pas les meilleurs.
Et donc, chaque personnage peut faire un certain nombre de trucs. Je vous raconterai ça peut-être en cours de jeu, mais grosso modo le personnage de Gonzalvo est plutôt encouragé à raconter ce qui se passe dans sa tête, ses sentiments, mais pas tellement à agir. C'est difficile pour lui d'agir. Le personnage de Honoré, j'ai dit quoi avant, Gonzalvo,
non, hein, oui, Gonzalvo donc, Honoré,
le personnage d'Honoré, lui, il agit, mais c'est rare qu'on entende parler de ses sentiments. Donc évidemment, quand il parle de ses sentiments, c'est quelque chose de très intense. Et Maria donne des bons conseils. Et enfin...
Maria, les bons tuyaux.
Et enfin, Honoré donne des... Honoré agit pour faire avancer les choses. Une dernière particularité, c'est que si on joue un as, l'as fait.
Attends,
un...
Excuse-moi, Fabien. Je... la crise de rire m'a fait rater le dernier.
Mais
le...
tant pis pour toi, Adrien.
S'il te plaît.
Moi, je l'ai écouté. Hein.
Voilà, merci, merci. Alors, je reprends pour les deux du fond.
Juste pour Olivier.
Olivier agit de façon physique, tu vois. Enfin, plutôt, il agit en agissant.
Comme Gonzalvo.
Oui, si tu veux.
Comme mais Honoré. Alors, comme Honoré.
Comme Honoré. Honoré.
Mais alors, il peut aller jusqu'à la violence dans certains. Parce que parfois, t'as des menaces du genre. Par exemple, une des menaces qui est proposée, c'est un ancien amant de Honoré qui est devenu un agent nazi revient à la maison ou bien des troupes fascistes entourent.
Je pense qu'Honoré, il agit de manière à impressionner les gens. C'est-à-dire, il est dans l'action, il est dans imposer son charisme,
son leadership.
Alors que l'autre, il est plutôt dans l'action
tactile vers quelqu'un, tandis que l'autre est dans l'action hors relation, peut-être.
Il y a une distinction de classe, si tu veux, qui est très forte.
Quand tu parlais des problèmes qui peuvent survenir, tu avais dit, là, on va jouer avec alors, Maria quand... qui est amoureuse.
Voilà, quand tu poses un as, en fait, la menace avance.
D'accord, c'est pas exactement ça dont je voulais parler.
Oui.
C'était, tu as cité d'autres exemples. Là, c'est un as choisi un parce que c'est celui qui te plaît le plus.
Non.
Ou alors, c'est parce que ça doit se jouer en campagne.
Alors, effectivement, ça doit se jouer plusieurs scénarios. Enfin, c'est pas mal de jouer plusieurs scénarios
d'accord.
à la suite.
D'accord.
Éventuellement, en changeant ton personnage d'une histoire à l'autre. Si ça vous branche, on peut faire deux peut-être trois histoires. On verra comment on se sentira à la fin de la première. Toujours est-il qu'à chaque histoire, tu changes de menace. Et que la première histoire fait toujours appel à la jalousie de Maria.
D'accord. Okay.
Voilà.
Donc là, c'est le plus fort, c'est du classique. Là, c'est le plus fort, donc c'est la carte que tu mets.
L'as, alors, en fait, les.
Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer et on va plus grâce à un détail
ça marche, ça marche. Mais simplement pour avoir le. Voilà, pour comprendre un peu comment ça fonctionne de façon.
Le but, est-ce que, juste le but du jeu, c'est juste de
coucher.
De kiffer.
De kiffer, ouais.
Voilà, est-ce que tout le monde peut gagner, en fait, dans l'histoire
Ben, c'est
pas
comme
Maria.
Si...
Pas vraiment.
Ben, c'est certain que Maria va être obligée d'évoluer, ou alors ça peut aller vers une fin tragique aussi. Si
alors,
c'est possible.
Moi j'ai quelques questions parce que je pense que de toute façon, effectivement, vous aurez l'occasion de revenir sur les détails des mécaniques au cours du débriefing. Une petite question qui me taraude, c'est est-ce qu'il y a, oui ou non, des avertissements sur le niveau de sexualité dans la partie, le niveau de violence,
un contrat social
vis-à-vis
pas
de ça.
Pas du tout.
Donc
pas
on
du
fait
tout.
What on want.
Fred avait l'air de savoir, il avait l'air de dire non.
Bah oui, ça semble complètement logique, non ?
D'accord. Bah, je sais pas.
Tout ce que le jeu dit, c'est qu'il faut avoir 16 ans ou plus pour y jouer. C'est bon pour tout le monde ?
C'est ça.
Frédéric, t'es sûr ? 16 ans, c'est bon, c'est pas ?
Je crois.
Ça va.
Je crois.
Il a considérablement à 2 ans.
Bon, ça va.
Et c'est comme d'hab, c'est contrat social implicite, dans le genre, si on voit que ça redérange les autres ce qu'on raconte, on fait attention et compagnie, j'imagine.
Oui, c'est plutôt un.
Mais voilà, parce que je sais que dans beaucoup de jeux de la Forge, il y a ces espèces de trucs.
Non, là, c'est pas le cas. C'est vraiment, c'est pas un jeu qui est très,
c'est pas
très réflexif.
J'ai pas
très...
l'impression que ça a pour but d'être gore, ça. J'ai l'impression que ça a plus d'être fun et célébrant.
Ouais,
c'est
mais
ça.
En fait, sans être gore, ça peut être bien porno.
Le yaoi, ouais, effectivement.
Si on fait l'hommage à tout ça, ce genre d'histoire, ça traîne en longueur, longtemps, les histoires d'amour se concrétisent.
Bon, la sexualité peut être très explicite
vient,
aussi dans
le yaoi. Oui, mais ça vient petit à petit. Et après, oui, quand
on passe à l'acte. La question de Romaric, c'était est-ce qu'il y a quelque chose pour qu'on se mette d'accord sur à quel point on voit du pénis, des poils.
À quel point on détaille les pénétrations et compagnie quoi,
je pense que c'est un jeu qui a un sous-entendu que la posture c'est je ne t'abandonnerai pas par opposition je rappelle à personne ne sera blessé.
Alors tu peux expliquer ces deux positions parce que
alors c'est
un peu de pédagogie.
C'est un texte théorique mais je ne sais plus de quel est
Émilie Carbos
c'est Émilie Carbos qui a je ne sais plus. Il me semble que c'est aussi une autrice mais je sais plus laquelle qui définit et il y en a encore une troisième mais je sais plus laquelle. Donc la posture la plus courante qu'on connaît dans un jeu de rôle, c'est personne ne sera blessé. Ça veut dire qu'on sait qu'on n'ira pas vers des trucs trop sombres, trop difficiles, pour les joueurs, enfin pour les personnages, mais surtout pour les joueurs. D'accord ? L'autre posture de dire je ne t'abandonnerai pas, c'est de dire bon ben il y a quelqu'un qui dit ou qui laisse entendre dans le système de jeu que il y a des thèmes qui sont difficiles pour lui ou elle. Les autres sont prêts à aborder ces thèmes, mais à le faire en aidant la personne à les aborder. C'est-à-dire sans la laisser tomber, quoi.
Là, apparemment, c'est quelque chose qui apparaît pas, qui est créé, alors qui apparaît entre autres grâce à Maggie Baker.
C'est Maggie Baker. Exactement, c'est un texte de Maggie Baker.
C'est Breaking the Ice.
En tout cas, en Je ne t'abandonnerai pas. Emily Carboss propose. Loin, quoi.
Ah non, d'accord, ok. C'est Maggie Baker et Emily Carboss qui ont affiné progressivement par des discussions à travers leur jeu.
Voilà.
Ces deux postures.
Je ne connaissais pas.
Excuse-moi. C'est vachement intéressant posture, parce qu'en fait, ça permet justement d'aborder des thèmes qui nous intéressent et qui touchent à des trucs un peu plus profonds, un peu plus difficiles.
Ça évite de jeter un voile pudique dès qu'il se passe quoi que ce soit, ou de rigoler nerveusement à chaque fois.
C'est ça.
Et
de se dire, bon ben voilà, ça existe, c'est pas facile à aborder, mais on va le faire quand même et on va y arriver ensemble.
C'est parti, on joue, on ne t'abandonnera pas.
Bon, c'est limite,
c'est
ça.
C'est limite, Adrien. Hein,
oh mon dieu.
Bon. Fin de la partie d'Odd Case Making Out.
Romaric, je leur ai tous dit d'aller faire la sieste, se reposer un instant. On a quelques minutes pour nous.
On joue au docteur.
On peut jouer au docteur.
Docteur.
Viens ici. Zip.
Ce film est entièrement doublé à la bouche.
Bon, on peut revenir plutôt que les références au X, là, on peut revenir seulement sur
AGM. Sur Hot Guys Making Out.
Hot Guys Making Out. Alors,
c'est parti.
Donc, je pense pour élaborer déjà, pour représenter déjà un peu les choses, il faut dire qui jouait quoi. Et c'est marrant, on s'est réassis autour de la table, exactement comme on était assis autour de notre table de jardin, au fond du jardin, là, tout à l'heure. Donc, Fred jouait Gonzalvo, donc le jeune Gonzalvo, le jeune écuyer.
Tout à fait.
Maxime.
Doux et innocent.
Doux et innocent, ouais, c'est vrai. On jouait.
Non, il était Gonzalvo, il était honoré.
Toi étais honoré.
Si.
Le beau ténébreux. Moi, je jouais Maria, qui était jalouse de cet amour naissant. Et enfin.
Moi, Adrien, je jouais Olivier. Le valet, le servant.
Mais alors, pour le coup, j'ai l'impression que t'as surtout joué le fond.
Le fond, ouais. Je pense que c'est lié à ce personnage-là.
D'accord.
On pourra en reparler peut-être plus tard, je peux en parler un peu maintenant.
Parlons-en maintenant, c'est une bonne thématique.
Les deux personnages centraux, c'est Gonzalvo et Honoré, qui sont censés avoir cette relation d'amour.
D'accord.
Ils ont des règles spéciales pour l'un pour les rois qu'ils jouent, l'autre pour les valets qu'ils jouent. Donc ça leur donne une importance dans l'histoire. Ils ont en plus une dissymétrie dans la narration. Voilà, ça encourage pas mal de choses. À côté de ça, le personnage de Maria et le mien, donc Maria et Olivier, nous sommes plus ou moins en charge des PNJ, plus ou moins en plus de nos deux personnages qui ont certaines particularités et thématiques. Mais on va dire qu'on est les PNJ de la partie, quoi. Ce qu'il y a, c'est que sur cette partie-là, Maria, c'est l'antagoniste. C'est l'objectif, c'est la problématique, le danger qui survient, qui est, elle veut séduire Honoré. Et donc moi, dans ça... Ou éloigner Gonzalvo, mais bon...
On est d'accord.
Mais moi, dans ça, mon personnage, il n'y a pas d'objectif de séduction, il n'y a pas d'objectif de quoi que ce soit. Je suis le valet d'Honoré. Mais après, mon interprétation, elle est libre. Je peux être à la fois son meilleur ami qui va l'encourager et lui permettre de coucher avec ce jeune Gonzalvo.
Toi, t'es Olivier, c'est ça ?
Olivier, ouais.
Faut que j'essaye de noter les noms parce que...
Ou au contraire, je peux être choqué par ce qu'il entreprend avec ce si jeune homme et essayer de... Enfin, voilà, c'est complètement libre. Et du coup, effectivement, j'ai eu tendance à m'éloigner du triptyque, à essayer de faire un peu le fond de l'histoire des...
Et en même temps...
Pas du tout le trouble fête, Adrien. T'as pas joué les troubles fêtes, Adrien.
Il y a eu un moment ou deux, j'étais là, mais putain, t'es censé être mon pote.
Non, mais ouais, ce moment-là, c'était une incompréhension sur ce que je disais.
Oui.
Mais sinon, j'ai pas spécialement fait les troubles fêtes.
Cela est dit, tu as été le sauveur.
Et j'ai été le sauveur.
À la fin, oui, exact, c'est toi qui as dénoué l'histoire. Et en fait, en même temps, alors, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais j'ai trouvé que tes apports à la partie étaient vraiment cool.
Adrien.
À la fois parce que, donc, quand tu, il y a cette règle que je trouve très chouette, qui est que quand tu peux pas jouer, enfin n'importe quand, tu peux choisir de passer. Donc tu te débarrasses d'une de tes cartes et t'en repioches une autre.
Ouais, tu débarrasses, quelle que soit la valeur de la carte, tu t'en débarrasses.
C'est ça. Et donc tu, et à ce moment-là, le jeu te demande de décrire des éléments de couleur de d'environnement. Donc ça donne souvent un côté assez contemplatif qui moi me ouais. me plaît bien.
Et en gros, est-ce que c'est dit qu'il ne faut pas que ça parle des personnages ou pas?
Non, il dit juste c'est
parce un que du coup c'est vrai qu'il y a un petit flou entre est-ce que décrire ce que fait quelqu'un, c'est une description ou est-ce qu'il faut
ouais,
vraiment
moi ça m'a grave bloqué quoi.
Ouais, c'est pas... vrai. C'est moi,
alors au début de... je voulais juste faire un élément de couleur et
je pense que c'est
on
vrai.
Tombé dessus
mais
ouais,
ils me sont tombés dessus au bout de deux phrases, j'étais là oh pop pop.
Pardon, excuse-nous. Ça c'est vrai que c'était pas cool de notre part, on aurait dû te faire confiance. Ça c'est vrai que c'était vraiment pas cool. On aurait dû complètement te faire confiance.
Et du coup
parce que vous étiez à fleur de peau.
Peut-être, ouais, mais du coup, derrière, non. Moi, j'avoue que...
On a été cons, c'est tout.
J'avoue que derrière, du coup, je savais pas du tout quoi faire en élément esthétique. Moi, je vais revenir, mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans ce jeu.
Alors, ok, je voudrais juste terminer après. Sur ce que je disais à propos d'Adrien.
Jeter les cartes pour faire un élément descriptif, donc tu...
Voilà, donc les règles disent « Add a bit of environmental detail to the game », donc décrire des... Enfin, le contexte, quoi.
Environnemental.
Voilà. Et en fait, il y a un truc qui était marrant, c'est qu'Adrien s'est vraiment pris au jeu et nous a fait tout un arc narratif autour d'une souris qui était un peu la spectatrice de ces histoires et qui, d'une certaine manière, aussi les symbolisait, en fait.
C'est vrai, t'as fait ça ?
Ouais, c'est ça.
C'est une bonne idée.
Avec une histoire
gros,
de chat aussi, à un moment.
En gros, la première scène où elle intervient, ils viennent... C'était quand ? Je me rappelle même plus de la scène en question.
Je crois que c'est la deuxième, c'est celle où on dîne le soir.
La troisième. La deuxième, c'était...
Ah non, elle intervient pour la première fois.
C'était
la deuxième scène, c'est-à-dire celle où... c'est pas au moment où j'étais en train de faire visiter la maison à...
Ouais, c'est ça, tu t'es dans
ah, oui, voilà.
Ça, c'était la première, parce que en fait, j'ai dérivé, c'est à la fin de la première scène.
Ouais, donc c'est en gros quand t'es plus ou moins dans ta chambre...
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc à ce moment-là, la souris débarque et non, c'est ça. Il vient
deuxième.
De se coucher.
Oui, c'est la deuxième scène.
Gonzalo vient de se coucher et là, je fais intervenir une souris qui agite son museau, sort dans la chambre et puis voit un petit peu la scène de son point de vue de souris, puis retourne dans son mur tranquillement. Puis elle est revenue quelques fois, donc au début un petit peu sporadiquement, puis après un peu plus. Et puis elle est, par exemple, la scène du petit déjeuner, elle est venue manger quelques miettes.
Tu donnais du sens rétroactivement aux scènes interprétées précédemment par cette souris.
Un peu symboliste.
Alors, mon objectif, c'était exactement ça, c'était de mettre une valeur symbolique. C'est-à-dire que la petite souris, la première fois, je l'ai fait apparaître dans la chambre de Gonzalo pour dire, bah voilà, pour moi, c'est Gonzalo, cette petite souris. La scène suivante, elle était au petit déj en train de manger les miettes. Bon, c'était juste pour dire, voilà, elle est sur la scène, tout ça. La scène suivante, moi, j'étais parti au village.
Ton personnage était parti au village pour acheter...
Ouais. Pour chercher un colis.
Oui.
Et en description, je dis juste, une petite fille parle à sa maman et lui dit, maman, il a acheté quoi le monsieur ? Ah, c'était de la mort au rat.
D'accord.
En gros, c'était pour commencer à dire, voilà, cette souris va lui arriver des choses. Et selon comment la fiction allait évoluer, soit elle allait bouffer de la mort au rat, soit un chat qui allait la bouffer ou des trucs comme ça.
D'accord.
Mais ce qu'il y a, c'est que les autres joueurs après s'en sont accaparés, enfin... sont venus aussi se dire « Ah, c'est cool cette souris !» Donc ils ont aussi fait vivre cette souris, ils ont fait venir un chat, etc. etc.
Ça, c'est tout le jeu de la narration partagée.
Ouais, c'est ça.
Maxime
Moi, j'ai eu des gros soucis avec ces trucs-là, parce que déjà, j'avais pas très bien compris apporter de la couleur, est-ce que j'ai le droit de faire impliquer les personnages ou pas. Alors, j'ai compris qu'on pouvait un petit peu, mais pas trop. En plus, j'avoue que moi, j'aime bien quand c'est juste apporter de la couleur, j'aime bien quand ça a une grosse signification. Et le faire au déboté comme ça, alors que je passais mon temps à me prendre la tête sur quel move déjà je vais pouvoir faire avec mon personnage, sortir de... Alors je me suis peut-être trop pris la tête, mais j'arrive pas à juste sortir un élément de couleur comme ça. Ouais. S'il a pas de symbolique, j'y arrive pas.
Alors
quoi.
Dans les jeux comme ça, par expérience, je suis très très comme toi, Maxime. Généralement, je cherche à me torturer l'esprit pour trouver des trucs qui font sens.
Ouais.
Mais en réalité, je remarque qu'en fait, tu pourrais décrire n'importe quoi.
Ouais,
autour de la table, ce sont les joueurs eux-mêmes qui interprètent et qui donnent du sens, en fait. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Parfois, il faut venir des premières choses qui te viennent en tête. En fait.
Une discussion qu'on avait eue avec Christophe Beuclet, justement, sur le sujet. Parce que dans l'agence, il y a beaucoup d'improvisation.
D'improvisation, ouais.
Et donc, on avait parlé un petit peu avec Christophe, et lui, il m'a dit la même chose. C'est qu'en gros, on n'a pas besoin que ce soit original, on a besoin que ce soit dit assez vite. Donc, si un joueur dit quelque chose, même si pour lui ça lui semble pas original, vu que c'est pas forcément ce à quoi pensent les autres joueurs, c'est original en soi. Et donc c'est un conseil que je fais figurer dans le bouquin, c'est dites quelque chose même si pour vous ça semble évident, ça ne semble pas évident à tout le monde. Et l'autre élément, c'est quelque chose que j'ai moins ressenti dans cette partie-là, parce que j'avais fait un début de partie de Hot Games Making Out dans le passé, on n'était pas allé jusqu'au bout, c'était qu'on avait tendance à parler longuement, moi compris. Hein. Et dans la première partie qu'on avait faite, on avait tendance à faire des phrases, enfin des prises de parole très courtes, qui étaient juste du genre, par exemple pour Gonzalvo, ça aurait été « Oh mais qu'est-ce qu'il est beau !» Point. Et le suivant, « Je lui mets la main sur l'épaule !» Point. Et le suivant, ça aurait été « Je prends ses valises et je l'accompagne à l'intérieur. » Et du coup, l'histoire avançait hyper fluidement et c'est on se prenait moins la tête.
C'est comme une BD, quoi.
Le texte du jeu, effectivement, dit plutôt quelques lignes. In each case, you will add a line or two to the story. Donc c'est effectivement...
C'est un peu plus proche de ce que j'avais vécu, ouais, peut-être. Ouais. Bon, après, c'est une expérience qui est assez différente. C'était très bien, on a eu vraiment des très très belles scènes qui étaient aussi très belles parce qu'on a eu justement des moments calculés où on a pu faire une sorte de grosse révélation ou de gros moments. mais c'est vrai que ça a peut-être rendu la partie un peu plus lourde à certains moments.
Là, c'est juste pour une question. Du coup, vous pensez qu'on a joué à ce jeu de manière un peu plus complexe que ce qui est prévu à l'origine ?
Je pense, ouais.
C'est d'accord. Possible. Moi, j'avoue que c'est de loin la meilleure partie que j'ai eue avec ce jeu.
Cool.
Je venais en le présentant, je venais en me disant bon, c'est un jeu qui est pas extraordinaire, mais qui vaut la peine. J'ai eu des parties pas très bonnes. Enfin, j'ai jamais eu des parties mauvaises. J'ai eu des parties un peu médiocres, mais jamais des parties mauvaises. Donc je ne savais pas trop ce que ça donnerait. Je suis vraiment content d'avoir eu une partie où il y avait des moments où j'étais vraiment ému par ce qui se passait. Il y a des moments où il y avait aussi une certaine... c'était un peu plus rigolo, quoi. On était un peu... pas vraiment à se défier les uns les autres, à faire des trucs cool, mais il y avait souvent ça. Et je crois que c'est un petit peu aussi ce que le jeu suggère, tu vois. T'as une carte, tu sais que... Tu vois, quand j'avais une dame dans la main... donc qui est la carte qui me permet de faire des actions spéciales, je la savourais celle-ci parce que je me disais quand je vais l'utiliser il va falloir que ça compte et que ça aille vraiment loin. Et peut-être que vous deux il y avait aussi ce côté-là quand vous aviez des cœurs dans les mains.
Ouais, moi c'est surtout le problème que j'ai eu, c'est qu'au début de la partie j'avais pas trop compris et du coup Gonzalvo a joué un valet, donc dès le début bam, gros truc, et moi direct j'ai enchaîné avec un roi. Et je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait j'en aurais pas beaucoup dans la partie et que j'aurais peut-être mieux fait de l'économiser.
Ah.
Et je crois que c'est nous deux, on a découvert le jeu à ce moment-là, quand on a fait merde.
Je sais pas si
c'était
pas...
cool aussi parce que ça montre genre love at first sight, quoi. C'est
puis après, c'était le moment où. Après des rois et des valets, vous en avez quand même eu pas mal dans la partie.
Non, j'en ai eu qu'un deuxième et il en a eu zéro à côté de ça.
Ah ouais, t'as eu zéro d'autres valets.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, moi même des cœurs, parce que du coup c'était des cœurs que j'avais besoin. D'accord. Et des figures particulières, j'en ai quasiment eu aucune dans la partie. Donc moi, à l'inverse de vous, dès que j'en ai eu un, enfin une carte, j'étais content et j'ai pu jouer enfin quelque chose où mon personnage agissait.
Au final, je pense qu'on était nombreux à avoir vécu cette frustration là parce que moi aussi, en fait, et moi c'était doublement le cas parce qu'en fait, je suis le dernier à jouer à chaque manche. C'est-à-dire que chaque manche commençait par Gonzalvo.
Toujours.
Et l'ordre de jeu, c'était Gonzalvo, Honoré, Maria, puis Olivier. Et donc, du coup, vu qu'il faut jouer les cartes en montant, alors on peut jouer la même valeur, mais très souvent, ce qui se passait, c'est que on pouvait pas monter juste d'un cran ou égaliser, donc on montait de 2 ou 3. Et donc, en fait, quand ça arrivait à mon tour, toutes mes cartes de 2, 3, 4 ou 5, je pouvais jamais les jouer. Et donc, j'étais obligé soit de monter avec les rares cartes élevées que j'avais, soit de décrire. Et donc, en fait, ça m'a très vite poussé dans ce rôle de descripteur. C'est ça qui a joué aussi dans ce que...
Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à comprendre le système de résolution.
Ok.
Par contre, je sens bien qu'il y a des cartes qu'on joue sur les uns sur les autres.
Je peux essayer ou Fabien, tu te lances ?
Vas-y, je t'en prie, Maxime.
En gros, vous avez 5 cartes en main.
Maxime.
C'est chacun son tour qui joue une carte et qui décrit un truc. Comme l'a dit Fabien, dans l'esprit du jeu, c'est une phrase. Nous, on avait des descriptions un peu plus longues. Pour pouvoir faire intervenir ton personnage et avoir une importance dans l'intrigue, il faut monter, mettre une carte qui a une valeur égale ou supérieure à la précédente.
Je trouve ça cool.
Si tu sachant, peux pas, tu passes. Sachant que les têtes valent toutes 11. La dame n'est pas mieux que le valet.
D'accord.
L'as aussi.
Et l'as aussi. Et après, il y a des trucs spéciaux. Le peu de trucs spéciaux à savoir, c'est déjà que si tu peux pas monter, tu jettes une carte... Et tu
décris
de la couleur. Mais est-ce que là, on n'a pas été très sympa avec Adrien ? Tu peux aussi passer dès le début et faire un élément de décor pour laisser éventuellement, l'occasion à Adrien de pouvoir agir avec des cartes de faible niveau.
D'accord. Ouais.
Les trucs spéciaux à savoir, c'est que Chacun a une tête qui lui permet de faire un truc spécial. Le valet pour Gonzalvo, la dame pour Maria, le joker pour Olivier, le roi pour Honoré. Et l'as permet de faire avancer la menace, donc de nous foutre des bâtons, de foutre la merde en gros.
Et en l'occurrence, c'était de jouer mon perso. Donc moi, j'acceptais.
C'est quoi la menace ?
La menace, c'est le fait que mon personnage soit amoureuse de.
En début de partie, tu dois choisir une menace.
Et vous aviez choisi que c'était ça.
En fait, on n'a pas choisi la première partie. Le jeu nous impose de prendre cette menace-là.
D'accord, ok. Bon,
et donc, moi, j'acceptais que les autres puissent à un certain moment jouer mon personnage
en jouant les as.
C'est arrivé assez peu, très peu souvent.
Deux fois, je crois.
Mais il y a quand même des moments où c'était à la limite de me voler mon personnage.
Ouais, c'est vrai.
On en reviendra. Mais je veux juste terminer sur le système.
Ouais. Vas-y,
Maxime.
Pour qu'un tour se termine, il faut qu'on ait tous passé d'affilée. Ce à quoi moi j'étais pas très content, je pensais juste qu'on ait tous passé une fois, ça suffisait. C'est comme ça qu'on l'a joué à un moment et Fabien l'a pas vu et j'ai dit c'est bon, c'est fini, alors qu'en fait c'était pas fini. Moi je trouve ça un peu naze de devoir attendre qu'on ait tous les quatre finis parce que ça fait couleur, ce qui fait pas du tout avancer l'intrigue pour une fin de scène. Et dernière chose, quand on a fini une scène et qu'on recommence, on mélange la défausse pour que les cartes qui ont été jouées reviennent potentiellement dans le paquet et puissent être repiochées par les gens.
Je trouve ça génial parce que du coup, ce que je comprends, c'est que plus on a des grosses cartes dans la main, plus du coup on va pouvoir jouer longtemps. Les autres vont abandonner en fait progressivement le jeu. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand on abat les cartes, il y a un côté vraiment, je pense, jouissif. Et ça monte, c'est comme la tension sexuelle.
Oui, alors clairement, il y a une symbolique comme ça. Oui.
Ouais. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Maxime, Rien. Effectivement, là, ça avait un côté pénible parce qu'on faisait des grandes descriptions. Mais c'est vrai que si on avait joué peut-être avec des mots plus courts, un tour de table qui ressemble à le feu crépite, une odeur de fumée se répand dans la pièce, puis un troisième qui dirait la souris détale dans le salon, et le quatrième qui dirait la bouilloire finit de siffler.
Cela dit,
va très vite, et ça permet effectivement de voir que la scène s'est posée, qu'il n'y a plus d'action, que les gens sont en train de réfléchir, de méditer, peut-être ils sont endormis, et du coup c'est une élégance de fin de scène.
En tout cas, ça renforce le côté contemplatif.
Ouais. Mais cela dit, on l'a fait quand même quelques fois.
Oui, on l'a fait plusieurs fois.
Et moi, du coup, à l'inverse de toi, Maxime, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, bien au contraire. Enfin, j'ai trouvé que, on n'a pas parlé tant que ça. Et que, en même temps, voilà, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. J'ai adoré le système de résolution du jeu. Donc, du coup, avec les cartes, c'est vraiment, vraiment chouette. Et ça permet réellement une narration partagée. Mais en plus, du coup, là, c'était juste fortement agréable de jouer avec vous. Moi, j'ai trouvé que j'étais entouré de narrateurs, de gens qui savent vraiment bien raconter des histoires, qui savent bien entrer dans le jeu, dans l'histoire, dans
bon,
les personnages.
En l'occurrence, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment le jeu qui est bon. Est-ce qu'ils ont tous...
Ils sont tous pourris.
Alors, ils sont tous nuls, en fait.
Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais discuter, la qualité du jeu. Et pourtant, j'aime vraiment beaucoup le jeu. Oui.
Ouais, mais en tout cas, donc, c'était très agréable. Et moi, ça m'a vraiment pas dérangé en termes de si je joue mon personnage ou si je joue des éléments de décor et comment ça se joue. D'autant plus que mon personnage, moi, je ne jouais surtout que les sensations.
Ouais, les émotions,
si j'avais une carte spéciale, c'était justement pour agir. Et ça, ça aurait pu être très frustrant, en vérité. Et en fait, ça l'était pas du tout. Au contraire, moi, ça m'a permis de jouer juste mon personnage et me concentrer que sur lui. Et auquel cas, après, tout le reste me semblait beaucoup plus simple et aisé, je pense. Peut-être à la différence d'Honoré qui, lui, agissait tout le temps, en fait.
Donc, Honoré, le personnage de Maxime.
Justement, je pense que c'est peut-être parce que j'étais en synesthésie avec Honoré. Mais moi, j'aimais les fins en mode blam, il y a un truc qui se passe. Et quand on a fini la scène du repas, où vous avez fait la tête quand j'ai dit il y a du café qui se renverse sur Gonzalvo. Moi j'ai dit dernier truc, je passe, je dis la fenêtre s'ouvre, du vent rentre et du café se renverse sur Honoré, sur Gonzalvo.
Ce qui pour la scène suivante était super cool parce qu'il a fallu le déshabiller, lui donner un bain, enfin bon c'était assez génial. Moi il y a deux trucs je pense sur la position de Maxime que j'aimerais un petit peu discuter. Je pense qu'effectivement ta difficulté avec ces moments de passé venait du fait que tu te mettais beaucoup de pression vis-à-vis d'eux, ce qui pour nous était super cool parce que t'as vraiment apporté des trucs excellents dans la fiction, mais en même temps ça t'a rendu les choses plus difficiles et ça t'a sans doute, tu vois, demandé plus d'énergie que ce que le jeu attendait de toi d'une certaine façon.
Et j'ai aussi, tu vois, quand j'ai lâché la prise, alors c'est peut-être moi qui ai surinterprété, mais j'ai senti une déception, genre quand à un moment j'ai dit bon vas-y maintenant je lâche prise et je dis juste le cheval se cabre, aucune réaction, tu vois, j'ai senti une déception presque.
Alors sur le cheval se cabre spécifiquement, moi j'avais l'impression que ça relançait de l'action, tu vois, c'était pas vraiment c'était pas le problème que tu lâchais. D'accord. Tu vois, c'était plus cette histoire de. Mais en dehors de ça, je pense que c'était. Enfin, moi, j'ai pas été déçu quand t'as fait des choses plus simple, moins recherché, c'était intéressant aussi. Tu vois.
Mais d'ailleurs, pour revenir sur les éléments de description, juste voilà, le décor, la couleur, le paysage, etc., l'ambiance, moi j'ai toujours trouvé que ça avait même pas forcément de valeur symbolique, mais que ça avait juste une valeur d'être là, et ça construisait autour de nous le monde, et du coup ça nous mettait vraiment dans cet effet d'immersion. Donc à chaque fois, moi ça m'a semblé juste adéquat et du coup agréable encore, je répète, parce que du coup c'était vraiment une table très chouette.
Et pendant la partie, il y a une autre réflexion que je me suis fait à propos de Maxime. C'est pas toi, Romaric, qui dit toujours que chez Maxime, il y a toujours une part de mi-fausse, non, c'est pas ça?
Oui, je peux dire ça.
T'avais sorti une phrase comme ça, qui avec, parce qu'au début, quand tu débarques sur la toute première scène, il le décrit sur son balcon, d'en haut, regardant la scène, et je sais pas pourquoi, enfin...
C'était un peu magique, quoi. Il s'est trouvé juste magique, après, l'instant d'après, il était en bas.
Ouais, c'est ça. Et je sais pas, il y a quelque chose... Enfin, à un moment, je me suis dit, mais oui, c'est tellement le bon perso pour Maxime. En tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment cool, la manière dont
tu Maxime, de toute façon, jouer un jeu dans lequel il y a des ambiguïtés sexuelles ou dans lequel il y a du sexe avec Maxime, c'est toujours super croustillant, parce que c'est quelque chose que... Je sais pas si tu t'en rends compte, Maxime, mais c'est quelque
Maxime,
chose que...
Là. Non, je suis...
Non, mais peu... c'est gentil de me faire des compliments, mais je pense que tout le monde a été génial. Hein,
Non, attends. Le truc, en fait, c'est qu'on a pu le constater, même sur le podcast de la cellule, dans le jeu Agone, je m'en souviens, c'était il y a deux saisons, quand il jouait le satyre, ça a créé carrément une ambiance, si tu veux. C'est-à-dire que tu joues ça, c'est à la fois caricature, c'est vraiment à la fois caricatural, donc c'est amusant, mais en même temps, c'est suffisamment. Il arrive à faire. Encore une fois, c'est lié à sa putain de poker face.
Théâtral, moi je dirais même, plus que caricatural.
Et c'est vraiment cool pour les autres, mais.
Oui, théâtral, au sens de la comédie, vraiment. Ouais.
Mais ça, pour les scènes de Honoré, je me suis pas trop mis la pression, ça va.
Bah, c'est cool. Parce que tu vois,
même si le principe d'action, d'être quasiment le seul à être vraiment dans l'action, des fois ça met la pression sur le personnage.
Tu m'étonnes.
Moi qui ai tendance à plutôt réfléchir et pas agir dans la vraie vie, et surtout j'ai eu beaucoup de cœur en main aussi. Ça c'était marrant parce que normalement Honoré, alors pour le système, quand il a tout sauf du cœur, il agit. Il réfléchit pas. C'est vraiment, je mets la main sur l'épaule, je lui lance un regard ténébreux.
Tu donnes des ordres.
Je donne des ordres, voilà. Et il y a que quand tu joues du cœur que t'as le droit de parler de tes émotions. Et j'ai eu énormément de cœur en main. Et du coup, j'ai joué un perso qui était moite-moite. Enfin, je sais pas comment on l'avait. C'était moite-moite émotion, machin.
C'était cool.
Moi, j'ai trouvé ça cool.
C'était très cool. Ouais.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes, plus sensible que dans certains one-shots à vos propres prestations avec ce jeu. C'est intéressant,
ça. Justement,
c'est la première fois que je vous entends autant parler de vos. Que vous féliciter entre vous, dire ah ouais, vous avez bien.
Je pense
que t'as bien joué.
C'est une remarque qui est très intéressante parce qu'effectivement, il y a un peu ce côté. Si tu veux, les cartes font qu'il y a des moments. Certaines actions deviennent des ressources rares pour toi. Tu vois, surtout pour vous deux, donc les deux amoureux,
Fred
et Maxime, parce que il y a un truc que vous pouvez pas faire aussi souvent que vous l'aimeriez.
Honoré et Gonzalo.
Mais de manière générale, on a tous certaines cartes qui sont particulièrement importantes pour nous, et quand on les joue, il faut que ça compte. Donc il y a ça, et il y a un peu le côté, cette dynamique de quand je joue, il faut que ça éclate, que ça plaise aux autres. tu le fais. Puisque c'est toi qui as la parole, tu vas donner aux autres quelque chose de très fort.
D'accord.
Maintenant, je pense que, pour avoir beaucoup joué au jeu, je pense qu'il faut...
Moi aussi. Vous êtes chiant avec ça. On est chiant avec ça.
Pour avoir beaucoup joué au jeu, je pense que il faut discuter un peu la qualité du jeu. Et pourtant, j'aime bien The Game is Making Out. J'en suis pas... fou amoureux, mais je l'aime bien. Mais à mon avis, il y a quand même une faiblesse importante dans le jeu, qui est que il y a un certain nombre de choses qui sont pas contrôlées par le jeu. Il y a deux choses, mais peut-être d'autres qui sont pas contrôlées par le jeu. La première, c'est il y en a trois. La première, c'est la manière dont les gens sont assis autour de la table, puisque le tour de jeu, commence toujours par Gonzalvo et ensuite ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Moi, je me suis demandé si on n'aurait pas dû le fixer avec Honoré en face de Gonzalvo. Déjà.
Par exemple, ça c'est vrai que ça pourrait être une idée intéressante, mais comme on l'a dit tout à l'heure avec Adrien, il était tout le temps un peu en punition.
Adrien. Oui, alors au début,
avec une grosse malmoule aux cartes surtout.
Ouais, alors j'avais en plus une malmoule aux cartes. Donc au début, je l'ai un peu mal vécu parce qu'entre la malmoule aux cartes et je parlais dernier, c'est vrai que c'est un peu frustrant. À partir du moment où j'ai pioché mon joker, le joker pour mon personnage d'Olivier, ça me sert à éliminer autant de menaces que je veux. C'est-à-dire que la menace, c'est toutes les cartes As qui ont été jouées, qui restent en jeu visibles.
Donc c'est à quel point Maria est agressive quant à sa jalousie.
C'est ça. Et donc, à partir du moment où je l'ai eu en main, je me suis dit, ok, j'en ai un, je vais le garder. Le moment où ça passe à 3 as, ou alors, enfin, au bout d'un moment, je commence à dire, ok, là, le prochain tour, je le fais. Et il s'avérait que Fabien a joué le 3e as juste avant.
C'est moi, c'est Maxime.
C'est toi. Ah oui, c'est toi, pardon, oui, effectivement, oui.
Ça, il faut ça.
Maxime.
Et du coup, j'ai tessorisé cette carte que j'ai jouée à un moment donné. Mais c'est vrai qu'à part ça, le reste du temps, j'ai eu un temps de frustration au début, puis après un temps d'acceptation et je me suis trouvé d'autres rôles dans la partie. Donc notamment cette petite souris que j'ai animée un petit peu. Mais aussi, j'ai fait intervenir un PNJ parce qu'on a le droit de jouer d'autres PNJ. Donc j'ai fait venir un ancien amant d'Honoré, qui s'appelait José, qui revenait de la guerre d'Espagne, qui avait été légèrement blessé à l'épaule et qui comptait passer quelques jours chez son ancien amant.
Alors Fabien, tu nous as vendu 3 éléments non prévus, tu nous as donc parlé du positionnement de la table et tu nous as dit...
Oui, mais je sais ménager mes effets. Donc je pense que la réponse du jeu par rapport à ce problème-là, c'est que le jeu te dirait, une fois qu'on s'est débarrassé d'une menace, on peut rester assis dans la même place, mais on va changer les personnages, tu vois. C'est-à-dire que, en fait...
J'ai pas compris là.
Le jeu nous dit, enfin la réponse que Ben Lehman, si tu veux, donnerait à cette objection qu'on fait au jeu, c'est de dire, au jeu suivant, on va changer de personnage. C'est-à-dire que peut-être c'est toi qui jouera Gonzalvo, Fred Honoré, moi Olivier et puis Maxime Maria. La deuxième truc, à mon avis, que le jeu ne contrôle pas et qui est peut-être une faiblesse, c'est...
Fabien.
On disait tout à l'heure la moule aux cartes. C'est-à-dire que parfois, tu as les cartes que tu veux, parfois pas. Et je pense que c'est le type de jeu où il y a deux trucs à bien comprendre. C'est d'une part accepter que, d'une certaine manière, on peut pas tout raconter. Tu vois, et qu'il y a une forte contrainte du système de résolution sur ta créativité,
la frustration.
Et que par ailleurs, il faut aussi, ça te demande une certaine dose de compensation, c'est-à-dire arriver, se dire bon ben pour que le jeu fonctionne bien, je suis obligé de jouer telle carte comme ça, et qui demande de bien comprendre, de bien maîtriser le jeu d'une certaine manière. Adrien.
Ouais, j'ai oublié.
D'accord.
C'est quoi ton deuxième point
Le
premier truc moule. que t'as dit.
Ah, le premier.
La moule aux cartes, le fait.
Il y a eu le placement autour de la table.
Autour de la table.
Non, juste après.
La moule aux cartes. Donc ça, c'est le problème. Le troisième, je l'ai gardé de côté.
À propos de la moule aux cartes, t'avais dit un truc.
J'ai dit, en fait, pour régler ça, il y a deux postures, il y a deux manières de comprendre le jeu.
Ah oui, la frustration du fait de...
Voilà, il faut l'accepter.
Sur l'histoire. Ok. Là-dessus, j'avais un truc à dire justement, c'est que. Justement, je sais pas si vous l'avez ressenti, c'est que moi, dans ce genre de jeu, j'ai tendance à faire des plans sur ce que mon personnage va faire. Et le fait que vous puissiez avoir autorité, par exemple, sur la souris, ça m'a pas frustré, ça m'a un peu déçu, si tu veux, parce que je l'avais introduit deux fois.
Désolé.
J'avais un plan en tête de ce que je voulais en faire. Et puis là, au moment où vous l'avez repris, là, du coup, je vous ai raconté mon plan parce que ça faisait un peu capoter l'effet que je voulais faire avec.
Ah oui.
Et ça, enfin. C'est ce jeu, mais c'est beaucoup de jeux à narration. Enfin,
c'est ça. Oui, il ne faut pas avoir de plan à l'avance.
Sur la narration qui est partagée.
Ça, c'est
exactement ce que j'allais dire.
Enfin, je sais que c'est quelque chose qui dépend de tous ces jeux-là, et c'est quelque chose dont j'ai, moi, du mal à me défaire. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ces jeux-là, souvent.
Et tu vois, le paradoxe, si je peux me permettre un commentaire avant de passer la parole à Frédéric, c'est que le paradoxe, c'est que c'est justement parce que les gens ont envie de te dire que ton idée, elle est cool, qu'ils te la reprennent.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est ça, c'est le pire des paradoxes, c'est ça, c'est parce que t'as une bonne idée, elle est trop cool, et les gens en la reprenant, tu vois, tu la sens comme une sanction, alors qu'en fait, ils voudraient te féliciter. C'est vraiment un paradoxe,
là,
tu crois qu'on discute.
Mais ce paradoxe, on peut le discuter tout de suite, je pense que c'est simplement le fait qu'il faut, tu vois, il faut se penser en tant que groupe, plus qu'en tant que joueur.
Exactement.
C'est-à-dire se dire, on va faire un truc cool tous ensemble, et pas seulement...
Les uns à côté des autres, les uns pour les autres.
Mais je comprends ton problème. Et je pense que ton problème était encore accentué par le fait que, si tu veux, ta souris, c'était un peu ton dérivatif du fait pas pouvoir jouer le reste. Et je comprends d'autant plus que tu sois frustré de ce point de vue-là.
Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi une tendance personnelle où j'aime avoir du contrôle sur l'histoire, en fait. Et C'est pour ça que je suis par exemple plus souvent maître de jeu que joueur, c'est parce que je prends plus de plaisir à être derrière l'écran, à avoir le dernier mot sur beaucoup de choses.
Il y a nécessairement une part de lâcher prise.
Ben ouais, bien sûr. Hein.
Ouais, bien sûr. Moi, je voyais pas ça comme aussi un moyen que ce soit exclusif, en sens où même si la souris est reprise par d'autres personnes dans la narration, du coup, ça reste toujours ton truc. Et mine de rien, tu vois, même ça va dériver peut-être de ce que tu avais prévu. Mais tu pouvais toujours revenir dessus, il y avait toujours quelque chose.
Oui, bien
de
sûr,
ça.
Bien sûr.
Enfin, voilà ce que je veux dire. Mais après, je suis entièrement d'accord avec ce que vous voulez dire. Non, ce que je voulais rajouter, c'était par rapport donc, du coup, aux cartes, chose. Où moi j'étais surpris par le fait que de jouer aux cartes pendant qu'on jouait à ce jeu-là a été aussi prégnant, aussi présent. Je ne m'attendais pas à qu'on joue en même temps aux cartes, effectivement, qu'il y ait le choix des cartes, de comment on va les jouer, qu'on les garde, qu'on ne les garde pas. La stratégie se joue autour du système de résolution. Et j'ai trouvé ça finalement agréable.
Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un truc, c'est un peu flou dans le jeu, ou dans la version que j'ai du jeu, parce que la version que j'ai, il l'a encore corrigé légèrement avant de la publier. D'ailleurs, elle est disponible sur le site donc de Ben Lehman, Tao Games. Et,
These are our games.
Oui, mais Tao. These are our games.
Ouais, non, mais c'était juste pour préciser en fait. Tu sais, moi je fais un peu la voix off là, tu vois. Je dis qu'il parle, je rajoute des petites infos.
Est-ce qu'il dit quelque chose sur l'aspect stratégique à la demande. Alors, non, il ne dit pas des choses sur l'aspect stratégique, mais il y a une règle que je ne sais pas si comment lui la pensait. En fait, quand j'ai relu les règles, il n'est pas dit qu'une fois que tu as posé une carte, tu puisses repiocher. C'est-à-dire qu'il est possible que, dans la manière dont il présente les choses, tu joues tes cartes.
Et t'en repioches 5 en début de chaque scène.
Et t'en repioches 5 en début de chaque scène.
Putain, ça changerait complètement le jeu.
Et ça, peut-être que je l'ai joué différemment. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé l'endroit, je l'ai peut-être oublié, hein, c'est possible, qui nous dit ce qui arrive quand on n'a plus de cartes en main. Tu vois, t'as posé toutes tes cartes, puis après, ben...
T'en repioches 5, genre. D'accord. Parce que nous, dans tous les cas, le problème, je pense que soulève Fabien, c'est que par exemple, moi, en tant qu'honoré, j'ai pour but de réussir à faire une belle histoire d'amour avec mon Gonzalvo. Et à un moment, je me retrouve, j'ai pioché un as.
Voilà. Alors
dans la façon où on joue, l'as, c'est foutre la merde dans mon couple. Donc, c'est-à-dire que j'ai en main, en gros, ça veut dire que j'ai un hold-up d'une arme, je la garde. J'ai aucune raison de la jouer.
De la jeter, tu peux l'acheter quand même.
Je peux l'acheter pour passer, mais c'est pas très intéressant, ça la remet dans le paquet. Donc ah oui, parce que ça veut dire redonner
paquet,
des billes.
Le paquet tourne aussi vite que ça.
Ben, en fait, à chaque manche, on remélange la défausse dans le paquet. Donc déjà, si je la défausse, elle peut revenir en tête de pioche au prochain tour.
Voilà. Ah ouais.
On joue une dizaine de cartes par tour, par scène. Hein, ouais. Facile, vraiment minimum. Donc. Faut voir qu'il y a un cinquième, voire plus des cartes qui sont jouées, qui sont remélangées. Donc alors, ça tourne bien les cartes. Ouais.
Cette troisième partie, c'est un peu la posture qu'on prend en tant que joueur, à la fois par rapport à son personnage et par rapport à l'histoire. Je pense que ça fait partie du jeu au sens fort du terme, c'est-à-dire des choses qui sont laissées à la discrétion des joueurs.
Tu veux dire que Maxime, il aurait pu s'aborder son couple exprès.
Mieux, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à la fin, pour expliquer ma situation, c'est qu'à la fin, on sent que c'est la fin de la partie là. Et moi, je me retrouve avec en main, j'ai un as et un roi.
T'as une chute en fait.
Donc je peux je peux y aller en mode, vas-y, on va coucher ensemble, tu vas voir. Et
le dernier moment.
Et ou alors, je peux faire quelque chose pour l'histoire. Et peu de temps avant. Fabien avait dit à un moment, moi je plaide pour mon personnage, donc il faisait des saloperies.
Pas peu de temps avant, c'était au début de la partie.
Au début de la partie, pardon.
J'ai dit à un moment, je suis en train de thésauriser tous les rois et tous les valets. Je joue pour mon personnage, mais en fait, je le disais un peu comme une boutade. Je l'ai pas vraiment fait en réalité.
À un moment donné, j'ai vu ta main, t'avais un roi de valets.
J'ai pioché. Alors contre mon gré, j'ai pioché une sacrée quantité de valets et de rois.
D'accord.
Parce
que du coup, moi je me suis inspiré de ce que tu as dit et j'ai gardé deux valets.
Je sais, et en fait j'ai eu tort de dire ça. J'ai eu tort de dire ça parce que justement, cette troisième question, c'est quelle est la posture qu'on doit prendre. Tu vois, est-ce que
je pense que vu qu'on tourne de personnage de partie en partie, on est là pour l'histoire avant d'être là pour les personnages.
Mais en même temps, tu vois. Mais les deux, exactement. C'est vraiment un truc où il faut décider de toi-même en ton fort intérieur, tu vois. Si Parce que si tu plaides pour ton personnage ou si tu plaides pour, si tu veux faire avancer l'histoire.
J'allais dire, même moi, j'ai joué les cartes plutôt dans une optique d'entraide, en vrai. J'avais des cartes qui me servaient pas, du coup, je les redistribuais forcément ou voilà. Et puis, bon, en même temps, j'avais pas les cartes que je voulais.
Mais en fait, ma remarque était vraiment vraiment toxique et je m'en veux pour la partie parce qu'en fait, ça sous-entendu qu'il y avait une bonne manière de jouer, alors qu'en fait, je pense que c'est typiquement le genre de jeu où tu t'alternes une manière et une autre de jouer, tu vois, un peu selon ton envie du moment.
Rassurer, je l'ai senti tout seul au fur et à mesure de la partie qu'en fait il y avait les deux et qu'il y avait des moments où il fallait, quand je sentais qu'il y avait Adrien qui me faisait des petits coups de pute, toi qui me faisais des coups de pute, là j'étais en mode ah non, alors là ça, là je me reprends en main, là je suis avec mon perso, vous allez voir ce qui va se passer, il va coucher ce gamin, je vais le pécho. Pour d'ailleurs, on pourra dire, mais au final, dans l'histoire, il n'y a rien eu de crade. Hein. Nous, on a eu une histoire très belle, très soft. Et d'ailleurs, en même temps, vu que c'est la première partie de la campagne, moi, je trouve ça beau que ça se finisse, que ce soit seulement à la fin qu'il se passe quelque chose.
Ouais, et encore, c'était vraiment derrière une porte fermée.
Tu nous as quand même fait rêver pendant une fraction de seconde, parce que je tiens quand même à dire ce que nous a dit Maxime. Hein, il nous a dit, je rentre dans sa chambre, je lui mets la main sur l'épaule, puis la main dans le pantalon, prends... les clés.
Voilà, il faut
et je ferme la porte. Et ce moment était vraiment magique. Quoi.
C'est bien dit parce qu'effectivement, on a été sage pendant toute la partie. Enfin, on a été sage. Il n'y a rien eu de. Voilà, on n'a pas vécu en plus ce moment sexuel.
C'est sous-entendu que Maria a couché avec Honoré.
Et oui,
puisqu'elle l'a pris dans ses bras et qu'après, elle lui a déchiré la chemise.
Peut-être pas, mais en tout cas, Honoré finit avec. Je trouve.
Ah, pour moi, c'était pas si évident que ça, ce que tu dis.
En tout cas,
pour moi, ça s'était passé dans le couloir. C'était genre, elle l'a juste.
Contenu fictionnel malléable, pour moi, on n'avait pas couché ensemble.
Ah.
C'est Maria qui avait fait sa sauvageonne dans son dos, mais lui qui était resté impassible et de marbre.
C'était, on ne sait rien, mais c'était vraiment l'image du manga magnifique où c'est vrai que là, c'était trop beau. Maria qui prend Honoré par derrière, mais avec les mains sur le torse, comme dans les mangas, quoi.
Il y a eu un moment aussi où Maria donnait un bain à Gonzalvo à cause de du café et où c'était sensuel mais c'était pas nécessairement sexuel, c'est-à-dire que
pas du tout parce que Gonzalvo l'a pas du tout vécu comme ça.
Ouais, et elle-même elle le faisait de façon assez maternelle en fait. Elle se disait finalement le salaud dans l'histoire, c'est pas ce gamin, c'est Honoré. Elle le prenait quand elle le séchait, elle le prenait dans ses bras pour le protéger.
Et moi ce que j'ai trouvé c'est que finalement avec quatre personnages, donc finalement très peu. C'est devenu très vite complexe et c'est ça qui a fait notre partie, qui a tenu notre partie. Toutes les intrigues se jouaient entre ces personnages-là, l'ambiance qui s'y jouait.
Il y a eu un cinquième personnage quand même.
Très complexe. Oui, même plusieurs, parce qu'il y a eu le chat, la souris, le rat,
etc.
Il y a eu les gens au village et tout ça, mais finalement, voilà, avec juste ces protagonistes principaux, ça a vraiment été quelque chose d'assez riche.
C'était assez cool. Ouais.
Je viens de comprendre le coup de la mèche qui dépassait du coup chez Maria. Du coup,
le lendemain matin, au petit déjeuner. Mais oui.
Je suis là, oh mon dieu, mais oui, mais ça veut dire que tu sous-entendais ça.
Pour moi, enfin, en même temps, je plaidais dans ma tête pour mon personnage.
C'est la magie du jeu de rôle.
La mèche.
En fait, je racontais qu'à un moment, j'ai joué une carte et j'ai juste raconté que Maria faisait son boulot et qu'elle le faisait bien et qu'elle avait l'air d'être parfaitement rangée dans le rang, sauf une mèche de cheveux noirs qui sortait de sa coiffe.
J'ai entendu, elle est un peu décoiffée, quoi.
D'accord.
Entendu, il lui arrivait des trucs cette nuit.
C'était complètement passé à côté. Hein.
Ah, moi aussi, sur le moment, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que... Et là, je me disais qu'elle faisait ça, en fait, pour séduire encore Honoré, mais maintenant, ça prend une toute autre signification a posteriori.
Et cela dit, ça n'a aucune valeur, parce que je le répète encore une fois, mais c'est parce que aussi, vous êtes trop fort. Enfin, je veux dire, tous ces petits détails dans l'improvisation, ça a vraiment créé une partie vraiment excellente, jusqu'au moindre détail, quoi.
Tant qu'à s'échanger des chauds doudous, c'était très cool aussi ce que tu as raconté, Fred.
Oui, merci.
Je pense aussi que, tu vois, j'ai des critiques à formuler au jeu, mais le jeu nous amène aussi à raconter des trucs cool, tu vois.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment où on a triché, en fait, dans ton dos, Fabien.
Ah oui.
Parce qu'à un moment, je suis là, en fait, vous me dites, te prends pas la tête, parce que j'ai vraiment l'air de me prendre la tête, mais c'est pas que je savais pas quoi faire, c'est que j'avais en face de moi l'As et le Roi. Comme ça, je suis devant moi et je me dis, j'ai trop d'idées pour l'As. J'ai pas beaucoup d'idées pour le roi.
À ce moment-là, Fabien se penche.
Pour checker les règles.
C'est ça. Et moi, je lui dis, montre mon joker et je lui dis, vas-y, mets.
Ah, et en plus, après, moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis Adrien me fait, non, mais je me gratte l'oreille. J'ai bien le droit de me gratter l'oreille.
Et du coup, à ce moment-là, je jette mon as en mode, on passe au niveau 3. Genre là, Maria, elle peut blesser des gens.
Je pense qu'il faut qu'on raconte ce dénouement, en fait, parce qu'il est vraiment intéressant à tout plein de.
En super rapide, je peux raconter les toutes premières scènes. En super rapide, première scène, c'est l'arrivée. Petite tension sympa. Direct, on a un valet, du coup, des gros sentiments de la part de Gonzalvo. Moi, je joue un roi, je lui montre la maison. Et je me rapproche déjà de lui et j'essaie de l'embrasser dans le cou. Maria arrive.
Interrompt ça direct
en mode.
Jalousie.
En mode grosse jalousie. La nuit, alors qu'il est dans sa chambre,
Gonzalvo est dans sa chambre.
Gonzalvo est dans la chambre, il n'arrive pas à dormir. Excuse-moi, je décris pas trop ce que
fait Olivier. Non, en fait, je me rappelle pas exactement des premières interventions de Maria.
Mode,
c'est pour ça
je
que
fais
que
ça
je...
en mode méga.
Ouais, mais c'est juste que je me rappelais pas, c'est pour ça que.
Je rajoute quand même que le personnage d'Olivier, en tout cas pour Gonzalvo, était vachement important. Hein.
Oui, exact.
Il a été très
paternel aussi.
Il a été le point d'ancrage, le gars qui rassure, et parce qu'il veut. Enfin voilà, ça a vraiment été le servant avec beaucoup de bienveillance. Et ton personnage était quand même vachement, enfin moi j'ai trouvé dans l'histoire vachement important.
Ensuite il y a une scène où
la nuit, alors que voilà. Gonzalvo n'arrive pas à dormir et qu'il est plein de doutes, et de la même façon en fait, là j'ai joué du cœur et Honoré devant la porte a hésité à aller.
Maria le retient.
Et Maria le retient.
Je lui donne un conseil parce que je peux te donner des conseils et s'ils suivent le conseil, ils peuvent utiliser la carte que je leur donne, mais ils sont obligés de suivre le conseil que je leur donne. Non, Honoré reste en arrière de cet enfant, que vont dire les gens? Et puis ensuite, oui, d'accord, il s'en va. À ce moment-là, elle le prend dans ses bras, lui dit en le remerciant.
Il y a une souris qui nous observe et la lumière s'éteint. Ça dégénère un peu. Et on ne sait pas trop.
Voilà.
Et ensuite, il y a
le petit déjeuner.
Donc il ne se passe pas grand-chose.
Le coup du café
qui se renverse.
Le bain.
Donc en fait, pendant ce temps, on va nettoyer ses affaires. Moi, je tente d'envoyer Maria chier pour pouvoir passer un peu de temps seul avec mon petit Gonzalvo. Mais elle le rattrape et c'est elle qui lui fait prendre un petit bain.
Olivier part en ville. Et Adrien introduit à ce moment-là le personnage de José.
Qui est donc l'ancien militaire, enfin l'ancien amant de
Honoré.
D'Honoré. J'ai tellement du mal à
le noter, moi.
Et qui se dirige vers la maison et je vais en ville acheter chercher un colis et acheter de la morora au passage.
On a la scène de l'arrivée d'Honoré à la porte.
Ah oui.
De José à la porte où alors là il nous fait un truc horrible Adrien parce que moi qui essaie de repousser tout de suite José en mode non tu peux pas rester là, ça va pas le faire. Il nous joue le deuxième as
et je fais donc intervenir le personnage de Fabien, donc Maria, voilà. Et là c'est effectivement une des limites où je prends le contrôle complet de son personnage. Et Maria dit: ah José, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, ça nous fait plaisir de vous avoir ici, je vous prépare la chambre de mon maître. Tu vois, ou un truc comme ça quoi.
Elle dit: est-ce que vous partagerez à nouveau la chambre de mon maître?
C'est ça.
Oh la vache.
Voilà, bim. Donc là.
Oh mon pauvre Fabien, t'as dit.
Ah mais non, mais j'avais accepté. Et puis en plus, je connaissais particulièrement bien le jeu.
Et surtout, ça va dans son sens en fait.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, on a une scène.
Parce qu'au final, c'était un moyen pour mettre Gonzalvo dans le. De côté, c'est. Ah, ils sont déjà en couple. Alors, je vais peut-être m'écraser et je vais peut-être les laisser entre eux.
Ce qui a eu complètement l'effet inverse chez
Gonzalvo. Oui, mais bon.
Et c'est ça, tu l'as bien joué. En mode, à partir de maintenant, Gonzalvo, il fait. Ah d'accord, mais lui aussi, il en est. Du coup, ça veut dire que mes sentiments, je suis pas tout seul. Il y a vraiment quelque chose à faire.
Ah d'accord, bien joué, Fred.
Voilà, c'était super initiative de la part de Fred. Trop... Là, c'est le moment où la partie a décollé. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était un peu. Ça se met normal. Et à partir de là, ça a grave décollé. On a eu la scène de la chasse, où certes, il se passe pas grand-chose en termes d'action, mais dans les sentiments.
Il y a quand même. On creuse.
José qui réussit à tirer bien sur la perdrix.
Et qui essaie de se placer bien aux yeux même de Gonzalvo, pour commencer à.
Maria qui dit à Gonzalvo: non mais fondamentalement, vous dérangez ici. Vous devriez vous enfuir. Donc là, j'ai donné mon deuxième conseil à Gonzalvo. Et après.
Et après, il y a la scène du repas.
Ah ouais, c'est la scène
c'est
du
la
repas.
Scène,
et c'est la dernière scène.
Où au début, direct, Gonzalvo utilise un cœur en mode là, non, moi je vais contre Maria justement. Et je commence à prendre la main de Honoré. Et donc sous la table, on est direct en train de se lancer des regards. Et là, ça commence à grave avancer.
Ça
quoi.
Commence à être chaud quoi.
Ça commence à être chaud. Maria, pendant ce temps-là, toi, Olivier,
moi,
prépare.
Moi, pendant ce temps, vu que c'était tellement chaud, j'étais en train de rôtir un cochon de lait avec ma sueur qui coulait le long de mes bras.
Et là, on arrive au moment du dénouement. C'est-à-dire que.
Je joue un as.
Tu joues un as et tu racontes que.
Je raconte que Maria met de la morora dans la bouche pour Gonzalvo.
Voilà.
Parce qu'on arrive au niveau 3 et comment ça peut blesser quelqu'un, voire lui faire grave du mal.
Et là, moi, j'étais. Alors, j'avais. Donc,
je vais faire un tout petit break à ce propos de ce que vient de dire Maxime. Moi, à ce moment-là, dans la fiction, j'ai vraiment beaucoup kiffé parce que la scène où en ville, j'ai décrit que. Elle achète quoi cette personne? Ah, c'est de la morora. En fait, j'avais pas dit ce monsieur, j'avais dit il achète. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit exactement. Mais il achète de la morora. Le moment où Maxime décrit que Maria verse de la morora, en fait, pour moi, c'était genre cette morora n'a pas été achetée par Olivier, mais par Maria, qui avait déjà ce plan. Et
oh la vache, pour moi, c'était pas aussi.
Moi, j'y donnais toute une cohérence.
Une profondeur. Ah oui, moi, j'avais même pas compris que c'était de la mort aux rats, en fait. Pour moi, c'était du poison lambda, quoi.
Mais c'est là où on a été très fort, c'est que finalement, tous les éléments qu'on a amenés dans la partie ont tous servi de.
Ouais,
de que... même des flingues de Tchekhov non prévues, quoi.
C'est ça. On cherchait tous la cohérence et elle est venue de même.
Ça a été, ouais, c'est ça.
Et donc là, il s'est passé un truc qui est assez important en termes de jeu. C'est-à-dire que Maxime, donc il y a ce moment où vous êtes foutu de ma gueule, donc je me penche comme une bonne poire parce que pour aller checker un point de règle, et donc il lui montre. Mais finalement, c'était une excellente manière de tricher, puisque donc toi, t'as pu dire ok, je pose mon roi et je raconte que Maria.
Non, je pose mon as.
Son as.
Parce que en jeu, je sais que je vais déclencher une saloperie, mais qu'elle va être résolue bientôt.
Moi, d'une certaine manière, je l'ai accepté. J'ai joué, je sais plus, enfin une.
Tu ramènes la nourriture à table.
Je la pose devant les gens. Et à un moment, j'ai vraiment hésité. J'ai regardé Adrien et j'ai vraiment hésité à me dire, au moment où Gonzalvo va porter la cuillère à ses lèvres, elle renverse l'assiette devant lui pour l'empêcher d'être empoisonné. Parce que je me disais, merde, si vraiment il est empoisonné à cause de mon personnage, je peux plus aimer mon personnage, quoi. Ça m'aurait vraiment détruit mon personnage, quoi.
Pourtant, c'était complètement cohérent. Parce qu'effectivement, plus ça allait, plus Maria voulait vraiment se débarrasser de ce jeune, quoi.
Oui.
Quand t'acceptes cette partie avec ce problème et la règle des as, t'acceptes que ton perso il peut devenir violent.
Je sais. C'est pour ça, c'est un truc, à mon avis, il faut vraiment en parler aux auditeurs pour qu'ils le sachent. La première partie,
elle est un peu. Elle vous échappe.
Et d'une manière, il faut que ce soit la personne qui présente ou qui connaisse le jeu qui joue Maria, tu vois. Enfin.
J'avoue qu'il y a eu du coup ce moment où tu acceptes de passer presque ton tour.
C'est ça.
Notamment pour qu'Adrien.
Et donc finalement, j'ai rien fait, j'ai posé l'assiette, et là, Adrien. Pousse son as et j'étais tellement...
Joker,
flûte.
Et donc j'arrive des cuisines derrière Maria, je fais « Attendez, je crois que je n'ai pas mis de sel. » Je trempe le doigt dans la soupe, je goûte et je tombe au sol instantanément parce que comme on sait, le poison fait instantanément.
C'était allégorie du soulagement. Il était tendu, mais il s'est détendu, il a pris la forme de la chaise.
C'est clair, j'en pouvais plus. J'étais tellement... Parce que... Et ensuite, donc t'as raconté...
Et donc, voilà, je tombe au sol, empoisonné par une goutte de morora instantanément, c'est magique. Et Maria et les deux hommes me portent jusqu'à ma chambre. Et quand je me réveille, Maria est à mon chevet et je lui prends la main.
Et ça, c'est un truc que j'ai vu souvent aussi, très souvent, c'est quand c'est la première partie comme ça, c'est le personnage d'Olivier qui résout le problème. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai vu une partie où en fait Maria était même à couteau tiré, en fait, était prête à tuer Gonzalvo. Et c'est Olivier qui lui prend le poignet et puis qui la prend dans ses bras.
T'es un espèce de juge de paix, un arbitre. C'est ça. Comme ça.
J'avais presque ça en tête. En fait, c'est que si tu l'avais pas empoisonné, si t'avais pas fait tout, enfin, s'il n'y a pas eu ce tour d'as. Je pense que j'aurais fait un petit truc où j'aurais joué que ben elle était sur le point d'empoisonner ou de craquer et je l'aurais pris dans mes
bras. Alors clairement on était tous alignés, je pense là. Il y a eu un moment où on était tous alignés parce qu'on sentait que les as avaient du mal à venir et ça renvoie à ce qu'on disait à propos. Excuse-moi. À ce qu'on disait à propos de la question de la moule aux cartes quoi, qui est quand même une faiblesse, en tout cas une difficulté du jeu. Et en fait moi si Maxime avait pas joué ça, j'étais prête à dire bon ben je m'approche d'Honoré,
je peux faire une supposition
et je lui dis j'ai vraiment un problème, il faut que tu m'aides pour résoudre
si
le problème.
Si Ben Neyman demande qu'on remélange le paquet à chaque fois, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir de la rétention, c'est-à-dire que les joueurs vont garder des cartes dans la main si. Et il en fait exprès pour qu'à un moment donné...
Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il demande, hein, parce que Fabien n'a pas retrouvé le passage.
Ah, d'accord.
Si, il demande qu'on...
Je pense que cette rétention fait partie de le fait d'avoir les
cartes
en face.
Pour avoir une dénouement dramatique.
Je pense complètement.
Je suis pas sûr. En fait, moi, le truc qui m'a un peu inquiété, c'est que mon pouvoir, donc de pouvoir, en un joker, enlever autant de menaces que je veux, quand j'ai calculé vite fait les stats dans ma tête, mais en gros, il y a 4 as, dont deux personnages qui ont intérêt à les garder pour eux parce que c'est les deux amoureux, quoi. Ils n'ont pas spécialement intérêt à les jouer.
Ça renvoie à la question qu'on discutait tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Mais même s'ils ne les gardent pas. Et à côté de ça, les cartes qui permettent de diminuer les as.
La menace, il y en a beaucoup.
Il y a tous les rois, tous les valets et deux jokers.
Non, mais le fait de garder des cartes en main.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour un as joué, il y a de très fortes chances que les deux amoureux, Gonzalvo et Honoré, puissent avoir un valet ou un roi qui permet aussi de diminuer la menace. Et donc, en fait, le pouvoir de mon personnage est assez faible.
D'accord.
en regard à ça.
Enfin, moi, tout ce que je voulais dire par pardon, excuse-moi, Fred. Tout ce que je voulais dire par rapport à la rétention des cartes, c'est que le fait d'avoir des cartes en main, c'est source de maelstrom, parce que t'es là, quelle proposition je vais pouvoir faire avec cette carte et quand est-ce que je vais jouer cette carte. Donc t'es constamment en train de te poser la question, quand est-ce que je vais abattre cette carte, à quel moment c'est le plus intéressant d'abattre cette carte et pour faire quelle proposition. Et donc chaque proposition que vous faites tous les uns que les autres va avoir d'autant plus d'importance que vous êtes en train d'imaginer toutes les situations possibles en fonction de vos jeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un incitateur à les situations possibles. Ouais. C'est formidable. De toute façon, je suis fan de Ben Lemax.
Et puis complètement, là, on regarde le dénouement et comment la partie s'est terminée. Bon, moi, je suis un gros candidat d'origine. Donc, du coup, quand j'ai vu toutes ces cartes tomber, toutes ces cartes qu'on attendait tous, quoi, tomber à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais c'est
l'apothéose, quoi.
Parce que c'est pas fini.
C'est l'apothéose, mais parce que.
Parce que c'est pas fini. Parce que moi,
j'avais prévu de garder des cartes.
J'ai joué mon Joker. Derrière, t'as fait une petite description, mais derrière, Maxime a joué son roi de cœur.
Tout à fait.
Qui lui permet d'aller choper, quoi. Enfin,
mais c'est pour ça. Effectivement, les gens avaient gardé les cartes qu'ils voulaient pour le
pour le moment où c'était classe, c'est cool.
En fait, je l'avais depuis longtemps, le roi de cœur, mais s'il y avait jamais. Le moment à l'achat, c'était pas trop le moment. Le banc dans le dîner, c'était pas trop le moment. Là, quand il y a eu ce dénouement, j'étais là, ah, putain, ça y est, enfin, on est seul. Et du coup, à la fin, on chope, quoi. Donc, ça a couché, mais on n'a pas été.
Ah, on n'en sait rien.
C'est pas mais moi, j'ai déjà ressenti ça avec un jeu. Un jeu de Frédéric Saint-Est, Les Cordes Sensibles, dans une version antérieure, on avait tous des mains comme ça et on abattait les cartes en fonction de, en donnant des arguments en fait au cours du, en l'occurrence c'était un repas de famille et c'était mais énorme. Et là, ce que vous décrivez de ce jeu, ça me fait beaucoup penser à cette version des Cordes Sensibles de Fred Saint-Est, qui paraît-il a beaucoup changé depuis. J'ai pas eu l'occasion d'y rejouer.
Oui.
Et voilà. Et je trouve ça génial, quoi. De cette interprétation en fait qu'on donne de ses propres cartes, de ses propres.
Par contre, autant on est dithyrambique là, autant même si on se jette des fleurs beaucoup, contrairement à ce que dit Fabien, je pense que la partie doit grandement à nous quand même. Hein, parce que j'ai entendu tout à l'heure, comme tu dis, tu as eu pas mal de parties médiocres. J'ai entendu Vivien qui m'a dit mouf, moi j'ai fait quelques parties, c'était pas top. Oui. Je pense qu'il y a, comme dans tous les jeux de rôle, mais particulièrement ici, il y a une question de.
Oui, de confiance.
De confiance. Et aussi, moi je pense, je vais le dire, pour moi le jeu de rôle c'est un sport. C'est un muscle qu'on entraîne, l'imagination, la capacité d'improvisation et à faire des propositions intéressantes pour les gens, c'est un muscle. Et on est autour de. Là, on est des sportifs autour de la table.
Il n'y a pas que ça qui rend le jeu de rôle comparable au sport.
Et, moi, je pense qu'on est des bons, quoi. On est des bons autour de la table.
Ce qu'il y a, c'est que moi, j'essaie de. Enfin, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, j'essaie de aussi. Enfin.
C'est pas pour autant que des gens pas entraînés n'y arriveront pas. Hein.
Oui, mais si tu veux, d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que. C'est pas parce qu'effectivement il peut y avoir des gens qui sont bons qu'il faut uniquement se reposer là-dessus. D'où l'importance de travailler les jeux et de réfléchir. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a que les gens bien, les gens qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent s'amuser.
Mais pour moi, c'est le défaut du jeu. Hein.
Non, bah non, parce que la réponse du jeu, justement, elle y est. Hein, c'est le fait de faire des propositions courtes. Ouais. Et la cohérence, elle vient.
Qui empêche d'être forcément très fort en impro, en trouver des idées géniales. Là, vous êtes mis ces contraintes-là parce que vous êtes fort, c'est-à-dire que vous êtes mis à un bon niveau parce que vous savez que vous avez un bon niveau. Parce que moi, je me souviens de partie.
C'est qu'en face, on a
Todd
un Fabien,
Guys,
qu'on a un Fred qui a maîtrisé du roulement pendant 14 ans, donc je veux dire, c'est bon.
Et d'ailleurs, dans la partie, on avait fait des cordes sensibles qui m'a fait penser à ça. Frédéric avait bien insisté sur cet aspect-là, qu'on pouvait faire des petites phrases, des petits gestes, des petites choses. Et nous, je me souviens qu'il y avait différents niveaux autour de la table et que c'était vachement bien.
En plus, dans les cordes sensibles, comme.
Enfin, alors, c'était psychodrame à l'époque.
Ouais, psychodrame, exact. Dans les cordes sensibles, en plus, il y avait ce côté que. À un moment, on avait une discussion avec Fred où je lui disais finalement, les phrases n'ont pas besoin d'être extrêmement recherchées. Parce que tu peux avoir une phrase comme passe-moi les lasagnes. Dans un certain contexte, ça peut être dévastateur, du genre je t'aime.
Passe-moi
les lasagnes.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais
on a eu ça. Avec Fred.
Oui.
Donc, si tu veux, dès qu'il y a de l'intimité, en fait, les joueurs mettent naturellement, parce qu'on est des êtres humains, de la force et de la cohérence et de l'intérêt et du sens dans ce qui est raconté, même si c'est quelque chose de petit.
Un dernier truc, j'ai jamais vu autant d'interprétations. Enfin, j'ai deux derniers points à aborder. J'ai jamais vu au cours d'un one shot autant de fiction racontée avec autant de plaisir. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que.
On a tout raconté, hein.
Vous avez tout raconté, vous avez tout déballé. On sent que vraiment chaque élément pour vous était important. Il y a une forme de. Le couteau est parfaitement aiguisé, toutes les actions sont tendues, sont tension. C'est la preuve d'un excellent jeu. Moi, je trouve, en tout cas, ça donne de l'extérieur, ça donne vraiment.
La partie était rapide. Au final, on a joué quoi, 1h30, 2h maximum.
Je sais pas.
Mais pour aller dans votre sens aussi, pour avoir vu, non, vous avez joué une heure et demie. Pour aller dans votre sens aussi, je me souviens des parties. Moi, les premières parties de That Guy's Making Out que j'ai vues, je ne sais plus, c'est la première ou la deuxième. C'était à toi qui jouais avec Flavie. C'était parti au. Non, c'était pas Ludexco, justement, c'était celle que vous aviez fait là-haut dans le bureau.
Ah oui.
Et où c'était parti direct sur du cul, en fait. C'était parti direct sur du sexe. Et bah, voilà, ça.
T'étais que deux aussi.
Vous aviez vite arrêté de jouer, je me sens.
Ouais, c'était pas très intéressant.
Ça avait pas...
À deux, ça doit être bizarre, parce que ça veut dire que t'es vraiment en tout le temps en train de gérer entre
marche,
je fais avancer.
Ça marche aussi, j'ai eu des bonnes parties. Ouais. Je crois que c'était avec Chris. Non,
parce qu'il n'y a personne pour gérer de l'adversité. Ouais, tu dois te la gérer toi-même, quoi, du coup.
Oui, c'est ça.
Je comprends.
Ça reste très intéressant.
Fabien,
notre fiction n'a, enfin là on va ça chemine vers un peu vers la conclusion quand même. Je voulais juste rajouter encore un truc. Notre fiction n'a pas été problématique ni en termes de, on n'a pas eu de relations abusives ou trucs comme ça. Cependant, je vous recommande, si ça vous intéresse de vous intéresser à une approche un peu plus critique du yaoi, y a une excellente vidéo d'un vidéaste qui s'appelle Rantasmo. Et sa chaîne s'appelle Needs More Gay, donc c'est en anglais. Needs More Gay, ça veut dire a besoin de plus de gay.
Tout à fait.
Et lui-même donc est gay et en fait a une lecture en termes d'un point de vue critique et en particulier d'un point de la représentation des personnes LGBT dans la culture populaire. Donc c'est toujours Korra, Legend of Korra Needs More Gay, Yaoi Needs More Gay. Disney sens. Needs More Gay. Alors, peut-être qu'un jour il fera un sens Needs More Gay. En tout cas, il a fait un super épisode sur la yaoi et de manière générale, sa chaîne est vraiment excellente. Donc, moi je regarde ça avec énormément de plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller.
Fred, pardon.
Parmi mes premières joueuses à sens, il y avait des joueuses qui avaient créé des personnages homosexuels parce qu'elles croyaient que c'était important pour devenir important dans l'univers.
Oh, ça va.
C'est rigolo, mais c'est vrai que ça s'y prête beaucoup parce que sens, c'est un jeu qui est ouvert sur beaucoup de questions de genre, sexuelles et autres, quoi, de relations.
Mmh. Bah, c'est parce que c'est un jeu qui est très inspiré de Lady Oscar et de toutes ces problématiques qui sont abordées dans Lady Oscar et qui sont déjà très bien abordées pour un jeu des années 70, je vais dire. Pour un animé et un manga des années 70, je trouve que c'était déjà vachement intéressant. Fred, tu connais Needs More Gay aussi?
Non, pas du tout.
Ah, ok, parce que tu avais l'air de plus soyer en disant ouais.
Non, mais je plus sois après. Trop... ce que dit Fabien.
Parce que du coup, je me disais, tiens, ça aurait pu avoir une autre approche. Ok, bah merci Fabien pour
cette. Voilà, juste une référence, ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil.
Et donc, c'est quoi globalement? Il analyse.
Il analyse en fait. Par exemple.
Faut que tu m'en dises plus. Parce que
tu veux que je te fasse la vidéo en résumé?
Non. Faudrait que tu me fasses un petit coup de pub.
Un petit coup de pub, je te dis, il reprend des séries, et puis il analyse.
Sur les yaoi, il dit quoi?
Par exemple, alors, voilà,
sur les yaoi, il commence par dire que il commence par dire un peu la même chose que ce que j'ai dit au début, c'est je ne suis pas le public visé par les yaoi,
ouais.
Et j'en suis extérieur, donc voilà, à prendre avec une mise en garde. Ensuite, il dit que c'est intéressant parce que on peut comprendre pourquoi des femmes s'intéressent à ça, parce que il n'y a pas seulement l'attrait de voir deux beaux hommes faire l'amour, mais aussi le fait que il n'y a pas de relation hétérosexuelle, donc on se passe des questions de domination. Alors, pas tout à fait. Alors, justement, ensuite, il a une deuxième réflexion qui est de dire il y a aussi des aspects problématiques dans le yaoi. Déjà, il dit c'est un peu un fétichisme des personnes, des hommes homosexuels, parce que il dit c'est vrai que je suis très mignon, mais j'ai pas envie qu'on me dise tout le temps oh comme vous êtes mignons ensemble. Il y a une deuxième réflexion autour du fait que c'est très en réalité c'est beaucoup plus genré qu'on ne le croit, parce qu'il y a toujours plus ou moins un homme qui fait l'homme et un homme qui fait la femme.
Il y a un dominant à dominer.
Voilà, et ça exclut aussi d'autres formes de d'autres types de cultures homosexuelles hommes.
Ouais, c'est des limites internes aux médias, mais c'est pas.
Et alors, et le ça dernier truc qu'il dit, il y a aussi un problème sur la représentation du viol dans les yaoi, parce que t'as souvent des trucs du genre, il le force et il finit par tomber.
Non, mais en fait,
c'est oui. Et il dit, mais enfin, et il complète, parce que c'est vraiment quelqu'un que je trouve très très juste dans ses critiques. Il dit oui, mais il faut aussi comprendre que même notamment les femmes qui aiment le yaoi ont souvent les communautés de fans de yaoi ont souvent aussi ce propre regard critique sur leurs propres médias.
Oui.
Ils disent ça c'est problématique, et ce que je trouve être une attitude formidable, on a le droit d'aimer quelque chose tout en étant critique de...
Sauf pour le jeu de rôle par contre.
Oh mon dieu, dis pas ça, Maxime. Faut absolument que le jeu de rôle apprenne aussi à être à la fois, enfin à comprendre qu'on peut aimer,
à se critiquer et à s'aimer en même temps.
Tu sais, dans le genre du grenier, il y a toujours ce truc là, le drogue. Là, il y a nous, quand tu sors des trucs comme ça, il faut qu'on ait le troll.
Non, on va pas lancer un deuxième podcast sur le sujet parce qu'on pourrait en faire un podcast.
C'est dommage, il finit de manière tellement mignonne.
Voilà, c'est ça.
Non, en tout cas, ça avait l'air d'être une super partie. Vous vendez hyper bien le jeu, je trouve. Ça a l'air d'être vraiment.
Et j'ai l'impression
très,
qu'on
très
est juste en même temps, tu vois. Ouais. On dit, bon, c'était une bonne partie, et en même temps, le jeu a ses propres limites.
Et on a bien compris comment ça se jouait. Donc, ça facilitera aussi grandement l'acquisition du jeu et sa compréhension par des futurs joueurs. Merci, Fabien, d'avoir amené Hot Guys Making Out. Ça, c'était vraiment.
Tu restes avec moi, Romaric, ici.
Bien entendu, on va jouer.
Là, vous êtes en train de fétichiser deux hommes hétéros en train de fétichiser la relation.
Mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais on a fait que ça pendant tout ce podcast. Réécoute la fiction que vous avez créée, mec.
Mais c'est vrai que justement, c'est presque la question qu'on peut se poser de ce jeu, quoi. À quel point on est en train de faire du fétichisme.
En même temps, tu vois, c'est ce que j'ai bien aimé dans la réflexion de Fred tout à l'heure, quand j'ai dit de Maxime que parfois il était limite caricatural, mais que c'était bien joué. Il m'a dit non, c'est juste de la comédie. Il ne faut jamais oublier aussi que dans le jeu de rôle, on est des comédiens et donc on doit aussi mettre en avant certains traits. On n'est pas là pour faire un reality show, on n'est pas là pour montrer les choses telles qu'elles sont. On est là pour aussi prendre du recul, s'en amuser et réfléchir, comme tu nous l'as très bien montré, Fabien, en invitant les gens à aller réfléchir, à se poser des questions, réfléchir à leur propre déterminisme. Je pense que ça va. De ce côté-là, la cellule n'a pas trop de honte à avoir.
Mais ça n'empêchera pas de continuer à me battre.
Je pense qu'il faut s'amuser plus avec ces questions-là, en fait.
Voilà, il faut aussi
si
savoir
on veut que les sujets soient abordés plus facilement de manière sérieuse, il faut aussi savoir en rire plus facilement.
On en discutera une prochaine fois.
Oh oui, quelle ouverture.
Ouais, je pense qu'il y a pas mal de... enfin, moi, je me sens concerné aussi par cette discussion vis-à-vis des veilles.
Ah oui,
ouais,
absolument.
On en reparlera.
Eh bien, ça fera un excellent sujet de podcast, encore casse-gueule.
Ça fera c'est clair, mon Dieu,
podcast escalier avec un déambulateur.
on va se prendre la tête, ça va être affreux.
Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. À très bientôt.
Ciao.
Salut.